Ve République, anatomie d'un régime en crise.
Absence de majorité, compromis difficile, coalition fragile, censure. Longtemps gage de stabilité, la Ve République est aujourd'hui fragilisée comme jamais depuis son origine en 1958. Saura-t-elle, comme par le passé, surmonter ses difficultés ?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec la spécialiste de la Ve République, la juriste Anne-Charlène Bézina.
Épisode 3, 1981. La République au défi de la gauche au pouvoir.
Pour rendre son rôle au Parlement, pour rééquilibrer le pouvoir législatif par rapport à l'exécutif, pour respecter l'opposition, il suffit de laisser jouer pleinement les règles démocratiques. Je confirme que nous y sommes décidés. Pierre Mauroy, discours de politique générale, le 8 juillet 1981. Toujours avec moi pour discuter de cette constitution de la cinquième largement en crise. Aujourd'hui, Anne-Charlène Bézina, autrice de cette constitution qui nous protège, c'est chez IXO, constitution que tu as commentée dans ce livre. Ce que je viens de lire là, c'est un moment important. C'est la première alternance gauche-droite de la Ve République. On va revenir aux années qui ont suivi le général de Gaulle, mais quand même, pourquoi est-ce qu'il y a un enjeu lorsque la gauche arrive au pouvoir sur les institutions et sur la Constitution? Ça tient à la personnalité du nouveau président de la République, François Mitterrand.
Et puis, c'est aussi la blague, un petit peu, au moment où on écrit cette Constitution en 58. La presse dit « retirez la Constitution, qu'est-ce qu'on trouve ? Le général de Gaulle ». Donc, en fait, on a le sentiment, certains parlent des habits neufs de l'empereur, on se dit que la Constitution ne survivra forcément pas à son rédacteur, et en réalité on vit une forme de fuite en avant. C'est-à-dire que on se pose d'abord la question avec Georges Pompidou, on se pose un peu moins la question, mais c'est différent avec Valéry Giscard d'Estaing. Et là, quand on a une alternance aussi violente de la droite vers la gauche, on se dit forcément ça ne tiendra pas. Et puis il y a autre chose. Il y a l'attaque en règle que François Mitterrand, alors dans les rangs de l'opposition, fait contre la Ve République. Ça s'appelle le coup d'État permanent.
J'allais y venir, parce que dans l'épisode précédent, on était sur l'élection du président au suffrage universel. Tu nous avais expliqué à quel point les oppositions et l'ensemble de la classe politique y étaient opposées. François Mitterrand, avec ce livre de 1964, Le coup d'État permanent, est à la pointe de l'opposition. C'est quoi l'esprit de sa critique de la Constitution ?
Alors justement, ce coup d'État permanent, en fait, c'est même pas un manifeste d'opposition, c'est un manifeste d'opposition institutionnelle. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il va considérer que cette Constitution, elle est violente, en quelque sorte. Elle contient vraiment tout le gaullisme. Une forme de bâton contre l'Assemblée nationale, une forme de discipline des oppositions. Et il promet, en quelque sorte, que la gauche aura une autre culture de gouvernement et surtout qu'il changera les institutions à la lettre. C'est-à-dire même une table rase, en réalité, quand il arrivera au pouvoir. Et ce qui se passe, c'est qu'en réalité, en 69, on voit bien que le gaullisme perdure après De Gaulle. C'est-à-dire que Georges Pompidou garde les mêmes habitudes que le général, il
donc
fait...
Donc 69, c'est la démission du général
69,
de Gaulle.
Alors ça, c'est vrai qu'il faut le dire, 27 avril 69, un référendum, à nouveau. Hein, le général de Gaulle associe toujours sa présidence avec le référendum. Référendum où il veut modifier le Sénat et la participation des salariés à leur entreprise. Le peuple dit non. Et le soir même, à minuit une dépêche AFP prévient du fait, elle est libellée en des termes assez simples, « Je quitte la présidence de la République, cette décision prendra effet demain à midi ».
Donc, il faut dire qu'il avait prévenu avant.
Il avait prévenu avant, mais personne ne s'y attendait en réalité. Les institutions sont complètement bouleversées à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait ? La présidence est vacante, il y a un vide de notre Constitution. Le lendemain, c'est le Conseil constitutionnel qui déclare la vacance de cette présidence de la République et on lance des élections présidentielles anticipées qui sont celles de 69 et qui vont assez sûrement, de toute façon, laisser la place à Georges Pompidou. Il n'y a pas eu le temps d'une vraie campagne. On sait que c'est lui qui est le successeur désigné. Ça a beaucoup blessé le général, d'ailleurs, parce qu'il s'est déclaré assez tôt. En réalité, il a un peu tué le père assez vite. Mais Georges Pompidou, il a une pratique gaulliste. En fait, il fait pré-signer à ses premiers ministres des lettres de démission pour qu'il soit sûr que le moment venu, il puisse s'en défaire. Et c'est la guerre larvée avec Jacques Chaban-Delmas, qui est son premier ministre, et qui, devant l'Assemblée nationale, a un discours de nouvelle société. Alors, qui est vraiment un discours programmatique avec du contenu. Sauf que Georges Pompidou n'a pas été consulté avant. Et prévenir son président, c'était quand même plus ou moins une formalité attendue. Et là, Georges Pompidou, qui apprend ça comme un vulgaire spectateur, franchement, ça passe très mal.
La première rupture avant Mitterrand, et on va y revenir en 1981, c'est 1974. Giscard n'est pas un président gaulliste, il est libéral de droite. Est-ce que ça change dans la pratique aussi du pouvoir? Est-ce qu'on sent, comme tu l'avais dit, que cette constitution, c'est aussi les hommes qui la font? Est-ce que cette constitution, elle va changer par les hommes qui incarnent la fonction présidentielle?
Oui, clairement. On disait, les observateurs, notamment Jacques Chapsal, dit quand Valéry Giscard d'Estaing arrive à la présidence, tout le style est changé. C'est sa volonté, c'est-à-dire on rajeunit, on propose un président citoyen, c'est son terme à lui. On veut essayer d'incarner une proximité. Il y a cette grande parabole du président qui vient dîner chez les Français. Il se fait filmer en jouant de l'accordéon, il donne des leçons d'économie au football. Il a un peu ce parallèle de Kennedy, il faut être honnête, c'est les années où c'est important de montrer son image avec des dents blanches, etc.
D'ailleurs, le film de la campagne filmé par Depardon, c'est parce qu'ils avaient adoré Crisis, le film sur la campagne de Kennedy. En effet,
on est tout à fait d'accord, on est dans une américanisation, beaucoup d'ailleurs des membres de l'opposition le critiquent, et il n'a pas été un fervent soutien du général de Gaulle d'ailleurs. En 67, il avait dit « je soutiens, mais », et le général lui dit « on ne gouverne pas avec des mais ». Donc, il y avait vraiment dans son idée de rupture quelque chose de réel. Il y a quand même une guerre avec Jacques Chirac qui commence très tôt dans sa présidence en 76.
Chirac qui est le seul premier ministre
de la 5e, alors il y a eu Manuel Valls mais pour d'autres raisons, qui démissionne de son propre fait parce qu'il ne peut plus s'entendre avec son président, ça devient trop difficile. Il veut reprendre la main sur la droite et Valéry Giscard d'Estaing a en réalité une présidence assez crépusculaire très tôt et c'est le premier à penser à la cohabitation. En réalité, déjà dans une conférence de presse de Verdun sur le Doubs, avec un discours très elliptique, il dit « Ne croyez pas que si vous faites gagner la gauche, j'ai les moyens de contrer l'application du programme commun. »
C'est votre droit, mais si vous le choisissez, il sera appliqué. Ne croyez pas que le président de la République ait dans la Constitution les moyens de s'y opposer. Et j'aurais manqué à mon devoir si je ne vous avais pas mis en garde.
Est-ce qu'il y a une petite musique de crise des institutions dans les années 70, par exemple, avant l'arrivée même de François Mitterrand en 1981?
Il y a un besoin de renouveau qui se fait sentir. Et figure-toi qu'avant de mourir, Georges Pompidou lance l'idée du quinquennat, par exemple. Donc, le renouvellement institutionnel,
c'est quoi,
on y pense.
De plus de respiration, on est après 68.
Exactement, on est après 68 et Georges Pompidou d'ailleurs est beaucoup mieux accepté en 68 que le général. Lui, il arrive il a une personnalité ronde, il arrive à être entendu, les partenaires sociaux ont confiance en lui et donc ce moment pour lui c'est l'idée de rompre un peu avec le septennat présidentiel en fait qu'on a depuis la 3e République pour des règles ubuesques, c'était une manière d'éloigner le président de l'Assemblée nationale. Ces 7 ans, ils ont vécu. Pour Georges Pompidou, il dit en quelque sorte, il faut plus d'aération, il faut essayer de revenir plus régulièrement aux urnes, il faut raviver un peu le contrat démocratique. Valéry Giscard d'Estaing le fait avec ce qu'il appelle des réformes sociétales et sociales, qui franchement auront marqué la 5e République. L'abaissement de la majorité,
bien
qui
n'est
pas constitutionnel, mais qui compte quand même. La loi sur l'IVG, qui lui vaut aussi cette idée d'être le président social. Et une réformette, au départ, c'est-à-dire on n'y croyait pas trop, on se dit, bon, c'est une réforme un peu gadget. La réforme de la saisine du Conseil constitutionnel. Alors ça paraît technique, mais le Conseil constitutionnel, quand on le crée en 58, c'est déjà une révolution. Parce qu'on n'avait jamais eu de juge de la Constitution. Et ça veut dire qu'on met notre Constitution au-dessus de tout. Et ça, c'est vraiment un dogme qui change beaucoup. Mais le général de Gaulle n'y croit pas. Il crée le Conseil constitutionnel plus pour arbitrer. Mais il dit, la seule Cour constitutionnelle, ne vous inquiétez pas, c'est le peuple. Sauf que le Conseil constitutionnel voit très vite qu'il est entravé dans son action, et en 71, il prend une décision. Alors, on raconte d'ailleurs que c'est plutôt parce que le président du Conseil constitutionnel a été oublié dans les rangs de l'ordre de la Légion d'honneur qu'il est un petit peu énervé, mais cette décision est rendue avec l'idée que le Conseil constitutionnel devient le gardien de
toutes nos libertés. Déclaration des droits de l'homme, préambule avec tous nos droits sociaux, le Conseil enrichit la Constitution avec tous nos textes historiques. Et donc, il peut protéger les libertés.
C'est le garant de l'État de droit.
C'est le garant de l'État de droit, exactement. Il fait cette mue en 71, et en 74, Valéry Giscard d'Estaing se dit, eh bien, c'est le moment de lui donner un peu plus de pouvoir, et l'opposition parlementaires, donc en fait tous ceux qui ne sont pas dans les rangs de la majorité, vont pouvoir aller critiquer les lois devant le Conseil et ils vont en faire un usage à bras raccourcis sur toute la Ve République. C'est un des premiers droits de l'opposition.
Allez, on y vient en 1981. François Mitterrand, donc l'auteur du coup d'État permanent en 1964, devient président de la République. Est-ce que ça change quelque chose dans la pratique du pouvoir? On a entendu Pierre Mauroy qui tentait de rassurer tout le monde lors de son discours de politique générale que j'ai lu tout à l'heure, avec même l'idée de redonner du pouvoir au Parlement. Ça s'est traduit dans les faits, ça?
Alors c'est tout à fait la volonté de départ, en tout cas, de se dire la culture de la gauche est une culture parlementaire.
Et pas présidentielle.
Et pas présidentielle. Et on se dit, la culture parlementaire, ça veut dire aussi changer les méthodes. Écouter le Parlement, lui laisser le temps de discuter. Or, ça va très vite bouger. François Mitterrand aura ce mot-là à l'intention de son gouvernement. Les 110 propositions du programme commun sont votre contrat de législature. Donc c'est très clair, ça veut dire que c'est lui qui a choisi ce qui allait se passer au sein du Parlement. Donc, en
sachant
quelques
qu'il
jours,
a une très très large majorité au Parlement.
Il a une très très large majorité en 80, parce que c'est ça qu'il faut expliquer. Non seulement François Mitterrand est élu, mais il dissout l'Assemblée nationale quelques semaines après avoir été élu. Ça veut dire qu'il provoque des élections
c'est
législatives.
C'est normal, non?
Il a raison. Politiquement, il dit, vous allez signer en fait la suite. C'est-à-dire que si vous voulez me donner les moyens de ma politique, il va falloir me donner une Assemblée nationale. Mais il crée un peu ce qu'on a appelé le fait majoritaire. C'est-à-dire que de ce fait-là, on a le sentiment que l'Assemblée dépend du président. Et donc, en fait, il ne rompt pas complètement avec la pratique gaulliste. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une Assemblée à sa main. Et c'est ça qu'il a longtemps critiqué de la part du général de Gaulle. Donc, en dissolvant l'Assemblée nationale quelques semaines après, il prouve que le président, sans une majorité à l'Assemblée, il n'est pas grand-chose. Et c'est ça toute l'originalité de notre Constitution. Donc, en 81, il y a ce raz-de-marée. Il y a vraiment une gauche à tous les étages. On se souvient aussi des images très marquantes de la montée jusqu'au Panthéon, toute cette rue Soufflot avec tout un personnel de gauche renouvelé. Et il y a des espoirs qui sont nourris, il y a tout un cap législatif, les réformes de la décentralisation, les réformes de l'audiovisuel public, l'abolition de la peine de mort, qui est une conviction personnelle de François Mitterrand, qui donne cette tâche à Robert Badinter, qui en fait le combat d'une vie. Et donc, il y a vraiment des grands moments, on appelle ça le socialisme à la française, qui commence à trouver sa voie, avec quand même l'entrée des communistes au gouvernement, qui vaudra aussi des mots très durs de la part de l'opposition. Et il y a quand même les premières déconvenues, notamment avec, je pense, un moment de bascule qu'on doit mettre dans l'année 84, avec la loi Savary, la loi sur l'école. Où précisément, on se rend compte que c'est un totem pour les Français, l'école. À partir du moment où on y touche, eh bien, les gens sont dans la rue très vite.
C'est l'école privée.
C'est l'école privée, et il a peur du peuple. Vraiment, ce côté socialiste l'amène à se dire, quand la rue démarre, je ne peux pas me permettre d'aller jusqu'au bout. Donc, il désavoue son ministre, il retire la loi. Et là, on est vraiment dans la succession des échecs. Il va y avoir des municipales qui sont quand même très difficiles pour la gauche. Et ce nouveau Premier ministre, ce nouveau jeune Premier ministre que je donne à la France, dira Mitterrand. Donc, tu vois comme le style gaulliste est conservé.
Il dit que je donne à la France.
Que je donne à la France. Et c'est évidemment, tu l'auras reconnu, Laurent Fabius, qui vient essayer de faire le lien, en fait, dans les périodes compliquées. Si bien qu'en fait, on se doute qu'en 86, les prochaines élections législatives, ça devrait être la droite qui l'emporte. On théorise un peu comment ça pourrait se passer. Et c'est pour ça qu'on bidouille un peu avec le mode de scrutin. Et là, en fait, on se dit que ça va être tellement violent d'avoir une majorité très forte pour la droite qu'on crée la représentation proportionnelle pour tous les 577 sièges d'un coup. Et c'est vrai que ça a un petit peu dissous la victoire de la droite.
On va y revenir dans le prochain épisode, mais pour terminer celui-ci tout de même, est-ce que tu dirais que François Mitterrand, malgré 64, malgré le coup d'État permanent, est, après le général de Gaulle, le président le plus gaulliste de la Ve?
Oui. Clairement, je pense qu'il a incarné la fonction présidentielle vraiment au sens de notre article 5. C'est-à-dire qu'il donnait le cap, il s'investissait intellectuellement, aussi avec un rôle assez intéressant au niveau de l'unité de la nation. Il avait plusieurs allocutions assez rares, mais finalement assez bien pensées sur la manière de théâtraliser. Donc on retrouve en fait complètement cette idée du cycle président-peuple qu'il aura tout à fait animé, avec aussi des périodes d'improvisation constitutionnelle. Il ne faut pas oublier qu'en 88, par exemple, alors que la culture parlementaire devait être le là de cette nouvelle gauche, eh bien finalement on utilise le 49.3 à bras raccourcis.
Ah oui, raconte-moi. On enjambe 86.
On enjambe 86.
On est en 88, il gagne à nouveau la présidentielle, génération Mitterrand.
Avec Tonton.
Tonton, avec son Premier ministre Michel Rocard. Et là, il y a un usage massif du 49.3.
En effet, parce que déjà, bon, il utilise Michel Rocard un peu, si on reprend ses dires, il dit « je vais le casser ». C'est l'idée un peu de le casser pour les futures échéances. Il se dit « il vaut mieux pas trop qu'il y ait de candidats à gauche ». Donc Michel Rocard est cassé de l'intérieur, hein, puisque de toute façon, il signe des accords à Nouméa qui lui valent une lombalgie très, très médiatisée. mais...
Rocard, c'est la Nouvelle-Calédonie. Hein,
ouais, voilà, dossier. Exactement. Et Rocard a en réalité la majorité la plus relative de la Ve République à cette époque-là, même si une fois qu'on la compare à celle de 2024, on a l'impression qu'elle est godillot. Mais il faut trouver une nouvelle gouvernance. Et là, toutes les armes qu'a pensé le général de Gaulle pour ces périodes de crise, eh bien, elles vont être utilisées. Le vote bloqué, 44-3, le 49-3, alors, on est obligé de le citer, d'en parler un peu, de ce 49-3. Au départ, l'un des rédacteurs de la Constitution dit « c'est une forfaiture, c'est une ignominie pour le Parlement de voter cet article 49-3 dans la nouvelle Constitution. Pourquoi ? Parce que l'article 49, alinéa 3, il nous dit « on arrête de faire travailler le Parlement ». En réalité, l'Assemblée nationale n'amende plus. Et c'est un droit fondamental des députés. C'est comme qui dirait pour nous la liberté d'aller et venir. C'est le seul droit fondamental des députés. Donc quand on dit, avec l'article 49, alinéa 3, soit vous prenez mon texte, soit vous renversez mon gouvernement, on est dans un chantage. On est dans une alternative qui prive complètement l'Assemblée nationale du pouvoir de travailler. Et en 88, eh ben, on utilise le 49-3 à chaque échéance budgétaire, parce qu'on en a besoin.
Mais moi, j'avais lu qu'il utilise le 49-3 parce que les communistes sont importants pour avoir la majorité, mais ne veulent pas être pris dans les histoires politiques. Et donc, le 49-3 permet, en gros, de passer plus facilement une loi sans nuire aux communistes. Donc, c'est pas vraiment le 49-3 d'aujourd'hui, on a l'impression.
Alors, tu sais qu'à mon avis, Thomas, il y a 49-3 et 49-3. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de sortes. Et ça, je crois que c'est important qu'on le dise à nos auditeurs, c'est qu'on peut utiliser l'article 49-3 de mille façons. L'article 49-3 rocardien, en réalité, c'est un article utilisé plutôt pour une discipline des majorités, comme tu le dis. Rocard et Guy Carcassonne, qui étaient son conseiller constitutionnel, avaient l'habitude de dire on va avoir soit une majorité Dolby, soit une majorité stéréo, pour essayer de savoir avec qui ils allaient travailler. Donc, un peu plus de communistes, voilà. Quand ils voulaient un texte un peu plus à gauche, un peu plus au centre. En réalité, c'est assez facile de travailler. Le groupe s'élargit assez facilement. Et donc, l'article 49, alinéa 3, il est utilisé en fin de discussion, juste pour sécuriser les votes.
Voilà.
C'est pas du tout une arme de brutalisation.
On a enjambé une période majeure de notre constitution de la Ve République, c'est l'invention de la cohabitation en 1986. Ça sera l'objet de notre prochain épisode. Cinquième République, anatomie d'un régime en crise, un podcast original de France Inter.